Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer notre séance. J'ai reçu les pouvoirs de Daniel Maire, qui sera représenté jusqu'à son arrivée par Rémi Grand, Hélène Devilliers, qui sera représentée par Jonathan Rodriguez, Sébastien Durançois, représenté par Dominique Klein, et Aline Triolet, représentée par Marie-Claire Bilbord. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse la fonction de secrétaire de séance. C'est toujours, jusqu'à preuve du contraire, instructusso la plus jeune de la séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous avons appris hier le décès de Madame Claude Blanchet, qui est décédée à l'âge de 82 ans, qui a été membre du conseil municipal d'Épernay de 77 à 83, qui était kinésithérapeute, à Épernay, rue Sarmi. Elle avait eu, au-delà de ses engagements municipaux, de nombreux engagements associatifs dans notre ville. Je pense notamment à son implication dans le refuge animalier dont elle a été la présidente fondatrice. Elle était également membre de l'association des Papillons Blancs. Et elle était une personnalité connue qui comptait de nombreux patients en dépit de son âge avancé, puisqu'elle a continué à exercer son activité pratiquement jusqu'à la fin de son existence, et je souhaiterais que nous puissions lui rendre hommage comme en tant qu'ancien élu membre du conseil municipal d'Épernay. Je vous invite donc à observer une minute de silence. Je vous remercie. Alors, nous commençons par le rapport numéro 2. Christine Mazzi. 2A. Oui, il y a un retrait de délibération. C'est la délibération. Je suis en train de chercher son numéro. La 5B, vente d'une maison d'habitation, chemin du Platé à Épernay, donc qui est retirée. On ne sait pas encore si elle sera représentée, puisqu'apparemment, il y a une ambiguïté sur le courrier de la personne qui a exprimé le désir d'acheter ce bien. Donc, rapport 2A, Christine Mazzi.
Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne la mise à disposition du directeur des sports de la ville à la CCEPC. Donc, la ville et la CCEPC ont décidé dès 2014 de mutualiser le poste de directeur des sports de la ville. C'est ainsi qu'un attaché territorial recruté conjointement assure les fonctions de direction partagée en application d'une convention de mise à disposition signée le 20 avril 2015 pour une durée d'un an. Je vous propose donc de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans. Une modification a été apportée à cette convention en ce qui concerne l'article 8, puisque cette convention pourra être modifiée par voie d'avenant si l'évolution de l'organisation des services municipaux et communautaires imposait de revoir les modalités de cette mise à disposition.
Merci. Donc, effectivement, ça fait un an maintenant que Lounès Attab a été recruté, à la fois pour exercer les fonctions de directeur des sports, succédant ainsi à Pascal Coffre, et en même temps pour prendre la direction de Buléo. Je crois pouvoir dire que son action est tout à fait remarquable dans le domaine des sports. Dans le domaine de Buléo, c'est moins notre compétence au niveau de la ville, mais il y a un travail de fond qui a été engagé sur la base de l'audit qui a été réalisé. Il y a un certain nombre d'évolutions qui vont intervenir dans le courant de l'année 2016, puisque un certain nombre d'opérations sont prévues pour la rentrée 2016, et il est également prévu, et ce serait bien d'ailleurs que ce projet soit présenté en commission, je ne sais pas s'il l'a déjà été ou s'il va l'être, le projet de coulée verte qui a des conséquences très positives pour Buléo, puisqu'il est question d'élargir le périmètre de Buléo dans ses activités extérieures non nautiques pour notamment installer des animations d'été et permettre en période de fréquentation estivale d'accueillir un public plus nombreux et plus longtemps, puisque on sait que de la part de la clientèle de Buillot, il y a une attente d'avoir des jeux extérieurs, des espaces à la fois pour se faire bronzer, mais également pour jouer au beach volley ou pratiquer ce genre d'activité. Donc, on m'a présenté le projet il y a une petite quinzaine de jours, et ce serait peut-être bien qu'il soit présenté dans la prochaine commission compétente sur le sujet. Des questions sur ce rapport ? Madame Perrin.
Oui, c'est marqué que la mutualisation a fait l'objet d'un bilan. Est-ce qu'on pourra en avoir...
A fait l'objet d'un ?
D'un bilan. Est-ce qu'on pourra en avoir connaissance ?
Oui, je ne sais pas si le bilan a été formalisé. Probablement que oui. J'avoue que je n'ai pas...
Le bilan concernant la mutualisation des sports, on a un comité prochainement pour en reparler, mais effectivement, oui, il y a un bilan qui a été fait. Oui.
Mais il a été fait, c'est une restitution orale qu'on a eue.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, puisque nous avons un comité de suivi qui se réunit régulièrement pour voir l'évolution des services suite à la mutualisation.
D'autres questions, Monsieur Angers ?
Oui, moi je ne voterai pas cette délibération pour rester dans l'esprit de ce qui avait été notre position il y a quelques mois maintenant. Je vois d'ailleurs que vous êtes précautionneux en évoquant le fait de l'élargissement de la communauté de communes et effectivement de ne pas trop savoir où on va en termes de configuration et de périmètre de certains postes qui peuvent évoluer.
Je parlais de périmètre géographique tout à l'heure. Hein.
Oui, tout à fait.
Je ne parlais pas de périmètre géographique, je ne parlais pas de la communauté de communes, je parlais de Buléo.
Oui.
Puisque Lounès Attab est à la fois directeur des sports de la ville et directeur de Buléo. C'est le périmètre d'implantation de Buléo. C'est-à-dire que c'est les espaces extérieurs de Buléo sont aujourd'hui contraints par un grillage. Et donne sur des terrains municipaux qui se situent derrière, qui, pour certains d'entre eux, sont en friche depuis pas mal de temps. Et dans les préconisations qui ont été faites suite à l'audit, pour répondre à l'attente de la clientèle, a été proposé d'agrandir le parc extérieur de Buléo, je vais l'appeler comme ça, où il y a actuellement quelques aires de ping-pong et puis des espaces destinés principalement à la bronzette, de permettre des activités ludiques et sportives pour les enfants, pour les familles. Et donc, c'est ce périmètre-là qui va être élargi sur les terrains qui appartiennent à la ville. Je ne parlais pas du périmètre de la communauté de communes.
Ça n'enlève rien à ma réflexion quant au périmètre de la communauté de communes et de son élargissement, notamment avec l'arrivée de Vertu, puisque on ne sait pas encore si les lignes risquent de bouger en termes de mutualisation. Le débat a été déjà lancé en communauté de communes à ce niveau-là. Et moi, je pense que vous nous ferez la surprise de voir également... la mutualisation d'un certain nombre de postes à l'avenir. Donc aujourd'hui, moi, je suis prudent dans ce domaine-là. Je reste sur ma position de départ. Le bilan de la première année est positif. C'est ce qui est inscrit dans la délibération. Rien ne dit que le scénario que nous avions proposé n'aurait pas été, lui aussi, avec un bilan positif. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de ma réserve, il est quand même dans un autre domaine. Depuis qu'on parle de mutualisation, il y a un an et demi, deux ans, depuis que vous êtes arrivé aux affaires dans ce mandat en cours, moi, j'ai quand même fait un certain nombre de remarques et de réflexions quant à la différence statutaire et indemnitaire des agents entre la ville et la communauté de communes. Il va de soi qu'aujourd'hui, la situation statutaire est plus avantageuse pour les agents de la communauté de communes, tant mieux pour eux. Il y a eu certainement une époque où ils ont eu le mérite d'être plus incisifs dans leurs revendications. La situation statutaire est inférieure pour les agents de la ville. Malgré tout, est-il heureux de ne pas, je dirais, prendre d'orientation qui soit claire dans ce domaine-là pour avoir à terme une harmonisation et une harmonisation va sans dire par le haut de cette situation, parce que moi je trouve que c'est quand même une bombe à retardement que vous laissez au mandat futur de ne pas vouloir traiter ce problème aujourd'hui. Donc c'est peut-être un peu à la marge de cette délibération, mais je crois que mettre à profit une situation où quelqu'un est à la fois sur les deux postes, sur les deux collectivités, doit amener aussi à la réflexion dans ce domaine-là. Et moi, je pense qu'il faudra quand même envisager sérieusement de pouvoir orienter les choses dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, moi, toutes les conditions ne sont pas requises pour que je puisse valider cette délibération.
Très bien. Juste un mot pour vous répondre, pour vous dire qu'on a avancé sur le sujet, puisque s'agissant du temps de travail, notamment, les deux collectivités ont harmonisé leurs jours de congé, les temps de travail. Donc de ce côté-là, les choses sont allées vers un rapprochement, même si on n'est pas sur deux régimes totalement identiques, compte tenu de l'historique de l'une et de l'autre des entités, des délibérations qui étaient prises par le passé, qui peuvent peser sur les choix d'aujourd'hui, puisqu'il y a des références historiques qui comptent, que sur le régime indemnitaire et sur l'évaluation des agents, on est dans une phase de rapprochement des modes d'évaluation à la communauté de communes et à la ville des agents, que les choses se sont un peu complexifiées avec l'arrivée, effectivement, de la communauté de communes de Vertu, puisqu'il va nous falloir non seulement imaginer un rapprochement des régimes statutaires de la ville et de la communauté de communes d'Épernay, mais également de la communauté de communes de la région de Vertu. Donc du coup, ça diffère un petit peu l'aboutissement de nos réflexions, parce qu'on s'est dit, c'est un peu idiot de travailler à deux, alors qu'on sait très bien qu'au 1er janvier prochain, les collaborateurs de la communauté de communes de la région de Vertu vont également être intégrés à la communauté de communes, d'où le travail qui est fait actuellement par nos services pour défricher la situation, examiner de près la situation de chacun des agents selon les grades ou selon les branches de la fonction publique dont ils sont issus, de façon à présenter un projet cohérent. Mais les choses avancent, et en tout état de cause, c'est pas un problème que j'ai l'intention de laisser à nos successeurs, puisqu'il devra être nécessairement réglé dans l'année ou l'année et demie qui vient. Hein, il est hors de question, effectivement, de maintenir une situation en l'état trop longtemps, parce que d'abord, elle ne serait pas comprise par les agents eux-mêmes, par les élus également, et que la logique, à partir du moment où il y a fusion, notamment entre la communauté de communes d'Épernay et la communauté de communes de la région de Vertu, c'est qu'on ait un même régime indemnitaire. Donc on va avoir très, très prochainement des premiers groupes de travail qui vont s'organiser, et très certainement des délibérations qui interviendront ou dans le courant de l'année ou plus certainement dans le cours du premier semestre de l'année prochaine, puisque la nouvelle entité naîtra officiellement par arrêté du préfet aux alentours du 15 décembre pour être opérationnelle au 1er janvier prochain. Donc il y a ce travail-là, mais j'allais dire sans vouloir rendre le dossier plus complexe qu'il n'est, dans tous les domaines, il va falloir qu'on imagine le rapprochement entre nos deux communautés de communes. On n'a pas toujours les mêmes compétences. Quand on a les mêmes compétences, on ne les a pas toujours définies de la même manière. Donc il y a tout un travail qui va occuper les élus communautaires de la région de Vertu et de la communauté de communes d'Épernay pendant une bonne partie de cette année. Et je pense que tout ne sera pas terminé en début d'année, parce que il y a évidemment, c'est une construction qui se fait en commun, c'est une co-construction de deux communautés de communes pour n'en faire qu'une demain, et évidemment c'est un travail qu'on devra faire, et pour ce faire, pour bien le faire, il faudra y consacrer le temps nécessaire. Pas d'autres questions, Monsieur Lefebvre ?
Question, c'est une position. Pour ma part, je voterai cette délibération puisque je l'ai votée l'an dernier, donc elle est en l'état. Par contre, je redis ma position concernant la mutualisation 2016 en stop avant l'intégration de Vertu, parce que je crois qu'il y a encore des projets pour l'année 2016.
Hein. Oui, tout
donc,
à fait.
Donc les autres projets, je voterai contre.
D'accord. Pas d'opposition. Donc les oppositions, qui est contre ? 3, abstention, 1, c'est ça, hein, Marc ? C'est abstention. Non, c'est pour. Pardon. Oui, c'est voté pour. Oui, c'est pour le. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Toujours Christine Mazzi. Rapport 2B.
Il s'agit donc de l'extension du régime indemnitaire des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Donc, ces assistants de conservation qui relèvent de la catégorie B sont, en fonction de leur indice, soit éligibles à l'IAT ou à l'IFTS. Donc, il convient d'adapter les coefficients qui sont actuellement applicables à ces indemnités pour mieux prendre en compte les responsabilités des agents concernés et, dans le même temps, harmoniser ce régime avec celui applicable au cadre d'emploi des rédacteurs et animateurs territoriaux, relevant également de la catégorie B. Donc il s'agit en fait de transposer le régime indemnitaire de la filière administrative et animation à la filière culturelle.
Et cette disposition a reçu l'avis favorable du comité technique du 30 mars 2016. Pas d'opposition, madame?
Oui. Administrative et la filière d'animation, ce n'est pas les mêmes. Comment on peut les transposer à la filière culturelle?
Non, ce ne sont pas les mêmes, mais on s'est cadré sur les mêmes postes pour déterminer les indices, comme c'est indiqué dans les tableaux qui sont fournis avec la délibération.
Et on a créé des équivalences.
On a créé des équivalences concernant assistants de conservation, assistants de... etc. Donc de façon à harmoniser toutes les filières et qu'on ait les mêmes indices.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2C, Christine Mazzi, ça concerne la modification du tableau des effectifs.
Donc je vous propose d'approuver la modification du tableau des effectifs telle qu'elle vous a été proposée dans le rapport à votre possession. Donc cela va permettre de procéder à la création de 4 postes pour procéder à la nomination de 4 agents qui ont réussi l'examen professionnel d'agent de maîtrise, à la création de 11 postes pour permettre, suite à la CAP, la promotion de certains de nos agents, et 3 postes également afin de permettre l'intégration directe de 3 agents issus de cadres d'emploi de catégorie C de la filière technique qui occupent aujourd'hui des missions qui relèvent davantage de la filière administrative. Donc suite à des changements de postes et de filières, les agents, on a dû les changer de filière et donc changer de poste.
Des questions? Pas de questions. Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2D. Christine Mazzi, toujours.
Ah, 2D, pardon.
Ça concerne la délégation de services publics de la fourrière automobile.
La fourrière automobile.
Et ça, c'est un choix qu'on fait, je crois que c'est tous les...
Régulière, enfin, pas tous les... Oui.
Tous les 2 ans, tous les ans?
Tous les 3 ans.
Tous les 3 ans. Ben, ça paraît, le temps passe vite.
Le temps passe vite. Donc, suite à la procédure de délégation de la fourrière automobile, donc un seul candidat agréé pour exercer la fonction de gardien de fourrière a déposé sa candidature. C'est le même que précédemment. Donc, il s'agit... de la SRL Pontalier qui se situe à Dizy, dont l'office correspond en grande partie aux modalités d'intervention demandées. Je vous propose donc d'approuver le projet de convention qui est annexé au présent rapport et qui précise les modalités du partenariat avec la ville.
Merci. Des questions? Bon, ça, c'est un renouvellement. Il n'y a pas de surprise en la matière. Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Rapport 2E concernant groupement de commandes.
Je vous propose, si vous le voulez bien, de traiter les délibérations 2E et 2F conjointement, puisqu'il s'agit dans les deux cas de groupement de commandes. Donc, dans un premier temps, un groupement de commandes entretien et maintenance des véhicules, engins et matériels entre la ville, le CCAS de la ville d'Épernay et la communauté de communes. Et un deuxième groupement de commandes qui concerne l'entretien des toitures, terrasses et des chéneaux entre la ville et le CCAS. Donc sont annexés au présent rapport les projets de convention.
Merci. Des questions?
Simplement, oui. Actuellement, donc la ville et le CCAS ont un contrat d'entretien des chenaux. Est-ce qu'il existait ce contrat? Est-ce que j'ai vu dans les...
C'est un renouvellement.
Je pense que c'est un renouvellement, c'est un parce qu'on n'a pas créé de nouveaux bâtiments, donc ces bâtiments avaient nécessairement... bon, ce sont des interventions assez particulières. Les toitures terrasses sont souvent des terrasses qui sont inaccessibles. Et les chéneaux, c'est souvent des choses assez délicates à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe, à mon sens, depuis déjà pas mal d'années, avec par le privé.
Il y a l'entretien, vérifier si les chéneaux sont bouchés, s'il y a des feuilles, etc. Donc, est-ce que c'est fait annuellement? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des fuites dans le bureau du maire?
Est-ce que c'est... Je n'ai pas compris votre question.
Est-ce que vous avez un contrat annuel d'entretien des chéneaux actuellement?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, oui,
bien
sûr. Parce que j'en ai jamais entendu
parler. On a eu des inondations ici dans l'immeuble. Je me souviens notamment en période de neige, ça fait maintenant deux ou trois ans, on avait des chéneaux qui avaient été bouchés et on a eu du refoulement d'eau. Le problème des feuilles est un problème permanent. On a aussi des interventions sur les églises avec des problèmes de pigeons qui se bloquent parfois ou qui meurent parfois dans les...
Est-ce que vous le faites au coup par coup ou avez-vous un contrat d'entretien à l'année?
On a un contrat d'entretien à l'année. Oui, à chaque fois qu'on a un problème de chez nous, on ne fait pas un marché. C'est-à-dire on fait appel à des sociétés qui interviennent ensuite sur commande, en fonction des besoins. Monsieur Angers.
Simplement, je reviens sur un sujet qui m'est cher, et la répétition étant un art de la pédagogie, je me permets de revenir sur ce sujet. La mutualisation des acteurs n'a donc pas pour vocation à rejeter des candidatures locales, surtout dans ces domaines-là d'artisanat, notamment en matière de charpente, couverture, zingrie. Donc la mutualisation, c'est une chose. Il peut y avoir aussi l'allotissement des lots derrière pour permettre une saine concurrence locale et bien répondre à nos attentes et faire travailler nos entreprises du territoire.
Mais groupement de commandes et groupement de commandes. Effectivement, dans certains domaines, on en a déjà parlé, quand il s'agit d'acheter de l'énergie, on achète de toute façon des opérateurs nationaux ou internationaux. Donc là, pas de difficulté. Si on peut acheter, le principe de l'achat groupé, c'est qu'on arrive à tirer des prix plus intéressants. Et puis, quand on... Et je vous rejoins dans votre remarque que vous avez déjà exprimée à plusieurs reprises, à savoir qu'il ne faut pas que demain, le grossissement des marchés par le fait, effectivement, des groupements de commandes fasse qu'on ne retienne plus des acteurs locaux et qu'on retienne systématiquement des acteurs nationaux, peut-être plus pointus, ou qui disposent de moyens plus importants. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. L'objectif, c'est bien de rechercher la meilleure compétitivité en termes de marché, mais ça n'est pas d'écarter les entreprises locales, a fortiori lorsqu'elles donnent entièrement satisfaction et qu'elles entretiennent depuis des années, pour certaines d'entre elles, nos bâtiments. J'ajoute qu'elles ont, si elles ont parfois, et ce n'est pas toujours démontré, des handicaps en termes de niveau de prix, elles ont en revanche une disponibilité, une proximité qui font qu'elles peuvent, sur des problèmes de chéneaux ou sur des problèmes de toiture, parfois intervenir beaucoup plus vite que n'importe quel opérateur. Et ça compte dans les choix qui sont faits. Vous savez que les choix qui sont faits ne sont pas faits uniquement sur des questions de prix. Elles sont faites en fonction du mieux-disant culturel, ce qui implique qu'on prenne en considération dedans leur capacité, leur réactivité, leurs références, leurs habitudes de travail. Et de ce point de vue, on a des acteurs locaux très performants.
En plus, il y a aussi... L'intérêt, c'est qu'en termes de dysfonctionnement ou de malfaçon, quand on a une entreprise locale qui est concernée par un marché municipal sur lequel tout le monde a regard, elle a tout intérêt à rentrer dans l'ordre, ce qui n'est pas forcément le cas d'entreprises qui sont plus lointaines et qui se moquent parfois de la manière dont les problèmes sont solutionnés sur place.
Je pense que pour résumer, il faut être très pragmatique en la matière, veiller à préserver, j'allais dire, un savoir-faire local. Et puis sur d'autres marchés où, encore une fois, les enjeux sont nationaux, internationaux, quand on va acheter de l'électricité, du gaz ou je ne sais quel autre fluide, ben là, j'allais dire, c'est la tout prix qui joue en premier parce que, évidemment, seuls les acteurs nationaux peuvent se positionner. Sur ces deux rapports, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On poursuit avec le parc auto, rapport 2G, toujours Christine Mazzi.
Je vous invite à prononcer la désaffectation et le déclassement des véhicules et matériels vétustes qui nécessitent d'importants frais de remise en état, ainsi que la cession après désaffectation et déclassement d'un tractopelle. La liste vous est fournie dans la délibération 2G.
Alors on a en l'occurrence un preneur pour le tractopelle, hein, puisque dans la délibération il est proposé de le céder à une entreprise privée. Pour le reste, ce sont des biens qui feront l'objet... de vente de gré à gré, s'agissant des biens d'une valeur tout
très
assez
faible.
Minime de véhicules parfois anciens. Des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2H, Christine Mazzi.
Divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes énumérées dans le rapport en votre possession. Une petite remarque concernant la subvention pour l'association Sparfilm et la participation à l'organisation du projet Park and Watch, puisque nous venons d'apprendre que Sparfilm a annulé cette manifestation. Peut-être que Christian de Mongin peut nous en parler.
Non, non, ils ont simplement annulé. Donc,
d'accord.
Donc on la supprime. On ne la compte pas dans la délibération. Elle sera évidemment... supprimé.
Voilà.
Y a-t-il des
et
questions
puis,
sur ce
il y
rapport?
Avait aussi sur table une attribution de subvention supplémentaire.
Pierre, tu peux peut-être nous en dire un mot? puisque
sur la
c'est.
Solution sur Astaoui.
Oui.
Oui.
C'est un jeune garçon d'Épernay, d'une vingtaine d'années, qui faisait partie du départ à la commune.
Oui. Qui faisait partie de la commission jeune, pour la petite histoire, qui a toujours accompagné les actions jeunesse, qui est un fou de danse et qui s'est déjà manifesté sur différentes animations organisées par la jeunesse ou par d'autres organismes à Épernay, dans le département et voire plus. Et il a participé à des épreuves de sélection départementale, régionale, nationale, avant d'être repéré et retenu donc pour participer au championnat du monde à Hollywood du 7 au 17 juillet prochain. Donc ça veut dire qu'il y a un budget de l'ordre de 5 000 euros et pour lequel on propose, alors le budget comprend le voyage, l'hébergement et surtout il y a 2500 euros de frais d'inscription pour la semaine, la prise en charge de tout le... Donc on propose une aide de 600 euros, sachant que pour sa part, il cherche bien sûr d'autres moyens pour l'aider dans ce projet. Pourquoi c'est sur table? C'est parce que je l'ai reçu, je crois, jeudi dernier, ou vendredi dernier, enfin peu importe. Et donc, vu le départ, j'avais dit éventuellement pourra présenter au prochain conseil, mais comme il part le 6 juillet, j'ai préféré proposer la subvention sur table, de façon à pouvoir le rassurer déjà quant au montage financier de son projet. Voilà pourquoi je n'ai pas pu le présenter en convention, en commission, il y a 8-10 jours.
En fait, c'est le secteur de la culture ou du sport? Parce que performance statistique,
c'est sur deux termes qui vont... C'est un grand débat avec mon ami Christian, où j'ai envie de lui dire des fois, je t'envoie...
Non, parce qu'il faudrait l'aider, j'allais dire, de voir si en se tournant vers le conseil départemental, le conseil régional,
oui.
Si on peut également...
Alors, la subvention proposée est sur une ligne jeunesse.
Oui.
C'est pas sur la ligne sport, c'est sur une ligne jeunesse où on a effectivement une ligne pour aider, accompagner des projets de jeunes gens d'Épernay. Celui-là nous semblait quand même particulièrement remarquable. Effectivement, on va essayer de l'orienter vers d'autres pistes pour pouvoir bénéficier d'une aide, parce que bon, en plus, c'est un jeune homme qui n'est pas spécialement riche, donc il faudra bien sûr l'aider. Sinon. S'il ne monte pas son budget, il ne peut pas y aller, auquel cas, je dis, bien sûr, la subvention, à ce moment-là, sera rétrocédée par l'association, parce qu'on verse à une association et non pas au jeune homme. Mais j'espère bien qu'on va l'aider. Là, le service jeunesse y travaille. Et effectivement, si on a d'autres pistes pour l'accompagner dans ce projet, ça serait le bienvenu. Pardon ?
Comment ? Bon. Ce qu'il faut, c'est regarder, effectivement, si on peut le... lui ouvrir quelques portes pour qu'effectivement il puisse bénéficier d'un maximum d'aide. Moi, je suis pas contre.
Pas d'objection majeure.
Je vais vérifier sur la ligne dès demain matin.
On propose 1 000 euros.
Je pense que 1 000. 1 000, je dis, soutiens, allez, tiens, je te fais le chèque en sortant. On se voit là.
Allez,
en sortant,
je propose de porter la subvention à 1 000 euros.
D'accord.
Oui, c'est vrai qu'il est souvent présent sur les manifestations. Il répond toujours présent et c'est vrai que...
Il est sur toutes les fêtes de la jeunesse.
Sur toutes les animations et effectivement, c'est un garçon qui mérite d'être
passé. Il se débrouille très bien et on le voit toujours. Donc,
il met régulièrement des vidéos aussi. Il met régulièrement des vidéos de...
C'est sa passion.
C'est sa passion.
Il vit pour ça.
Oui, il vit pour ça. Pour ça.
Bien. Je vous propose donc de porter la subvention à 1 000 euros. Pour le reste, pas de changement. Avez-vous d'autres questions, Monsieur Angers, Monsieur Klein, Madame Perrin?
Oui, moi, je demanderai un vote séparé pour la première subvention qui concerne l'association sportive de l'automobile. Voilà, j'y arrive pas ce soir, hein, c'est pas ma soirée, de l'automobile de Champagne. Donc je ne voterai pas, je voterai même contre cette délibération. On va pas réouvrir une sempiternelle polémique, mais quand même, j'ai quand même quelque chose à dire dans ce domaine-là. Moi, j'ai bien lu le dernier numéro d'Épernay le journal, où on consacre une dizaine de pages à la communication autour du développement durable, où on invite tout un chacun à multiplier les efforts, à surtout ne pas s'inscrire dans de l'écologie punitive. Et voilà, notre bonne ville d'Épernay montre l'exemple en amenant moult bagnoles dans le centre-ville pour une compétition automobile. Alors, je ne sais pas ce que vous racontez, monsieur le maire, lorsque vous êtes dans votre ministère à Strasbourg. Je dis ministère, non pas, hein, puisque c'est pour comparer la puissance de notre région par rapport aux Landes voisins, où là, ce sont des ministres, les vice-présidents sont des ministres, donc n'y voyez aucune allusion péjorative. Donc, je ne sais pas ce que vous racontez dans votre ministère de la qualité de la vie pour apparaître si vertueux, alors qu'en fait, dans les pratiques municipales, et on a déjà eu l'occasion d'en discuter dans d'autres domaines, je ne vais pas vous refaire le débat sur la biodiversité, parce que là aussi, ça reste sérieusement en travers. Et aujourd'hui, donc, voilà, nous proposer une délibération qui fait en sorte que la santé de nos concitoyens risque d'être atteinte à un moment par la profusion de véhicules dans la ville.
Je souhaiterais pouvoir terminer mon
intervention. Vous aurez tout loisir de reprendre par la suite. Moi, il ne me semble pas qu'on va dans le bon sens avec de telles décisions. Alors, vous allez reprendre l'argumentaire comme quoi il y a eu une activité économique, touristique qui a été largement développée ce week-end-là. Moi, je pense que là aussi, c'est comme sur le Tour de France il y a quelques années, pour avoir des chiffres et des bilans et des résultats, on aura rien du tout, et on a juste à vous croire sur parole dans ce domaine-là. Moi, je voulais simplement faire remarquer quelques initiatives qui se passent ailleurs actuellement à échelle européenne, mais aussi à échelle nationale, dans quelques municipalités qui ont fait le choix de la piétonnisation. Et regardons le dernier choix, qui est celui de Madame Hidalgo, hier, à Paris, d'ouvrir les Champs-Élysées à la piétonnisation. Je ne sais pas, vous avez tous vu à la télé l'afflux de personnes profiter de cette activité qui coûte rien. Donc moi, je pense que là, il y a un domaine sur lequel il faut absolument qu'on arrive à bouger et à Épernay. Il va quand même falloir à un moment qu'on prenne position pour sortir les voitures de notre ville. Et c'est certainement pas en soutenant ce genre de manifestation qu'on est crédible dans les positions que je vous invite à tenir. Et puis je vais terminer par une boutade. Je sais, monsieur le maire, que vous êtes soutien de Alain Juppé dans le cadre de la prochaine primaire. J'ai vu ces jours derniers que Juppé, je ne vais pas y arriver ce soir, c'est l'émotion certainement, Juppé demande à ce que l'on aille plus loin en matière de gaz de schiste, et que le gaz de schiste est une solution. Je pense que ça, monsieur le maire, vice-président du Conseil régional, dans votre ministère de la qualité de la vie à Strasbourg, ça, il va falloir faire passer ça aux acteurs et aux gens de notre territoire. Mais en matière de développement durable, on l'a bien vu, en termes de biodiversité, en termes de bagnoles dans la ville, demain en termes de gaz de schiste, vous êtes capable quand même de toutes les contorsions. Et là, j'ai nul doute sur votre manière de nous faire aussi avaler dans ce domaine-là la pilule. Merci.
Alors, je ne suis pas particulièrement souple. Mais ma position, elle est constante. En l'occurrence, c'est le sport automobile que l'on soutient. Le sport automobile a toujours existé et a permis à quelques fleurons de l'industrie nationale de prospérer dans le monde. Les marques françaises sont étroitement associées à la performance automobile, que ce soit hier dans la Formule 1, dans le rallye, dans toute forme de compétition. Le sport automobile est un sport extrêmement populaire, qui en plus a l'avantage d'être gratuit, non pas pour les coureurs automobiles, mais pour le public, que le rallye Épernay Vins de Champagne est devenu aujourd'hui une épreuve de référence, puisque c'est la première épreuve du championnat de France de deuxième division, qu'elle est aux portes de la première division, que c'est un rallye extrêmement bien organisé, et que, en l'occurrence, cette année, pour le 20e anniversaire, nous avions choisi d'organiser une spéciale en centre-ville, ce qui m'a valu d'être chaudement encouragé par la Fédération française sport automobile qui se plaint ce type d'événement est trop rare aujourd'hui dans les villes françaises, de même que Mme Hidalgo a organisé une course de Formule 1 électrique. Oui, mais enfin, attendez,
si vous
comptez dans l'empreinte carbone le bitume qu'il a fallu effectivement poser autour des Invalides, à mon avis, je pense que le bilan carbone, il est moins bon que celui du rallye d'Épernay. Quoi qu'il en soit, je pense que le sport automobile, c'est un domaine important auquel nos compatriotes sont attachés, que la France a dans le domaine automobile un certain nombre d'industries puissantes, que qui plus est que l'image du champagne est aussi beaucoup associée au sport automobile, et que, contrairement à vous, je ne crois pas une seconde que la solution soit de virer les voitures des villes, comme vous l'avez dit à l'instant, mais c'est tout simplement de travailler sur la technologie automobile, et que la technologie automobile, elle se travaille à travers le sport automobile. C'est-à-dire que les innovations viennent du sport automobile et sont ensuite déclinées dans l'automobile de tous les jours. Et que vous verrez de plus en plus, on voit déjà aujourd'hui, je rappelle que les Formule 1 sont aujourd'hui hybrides, que demain vous verrez de plus en plus de voitures électriques ou hybrides, de moins en moins de voitures thermiques, y compris dans les rallyes, et que l'innovation viendra du sport automobile. C'est la règle, ça s'est toujours produit comme ça, et depuis que l'automobile existe, c'est par le sport automobile que l'innovation est arrivée. Nos marques automobiles, on l'a vu avec les dernières analyses effectuées sur le caractère polluant des moteurs des marques automobiles, et je ne m'étends pas sur le scandale Volkswagen, mais les études ont démontré que la plupart des constructeurs automobiles n'étaient pas aux normes aujourd'hui. Il faut qu'elles progressent, et je suis convaincu que c'est en encourageant le sport automobile qu'on arrivera à faire progresser la recherche en la matière. Jonathan.
Oui, merci, monsieur le maire. Évidemment, je ne peux que réagir à ces propos qui sont vus par le petit bout de la lorgnette, parce que aller regarder deux jours d'activité sur 365 qu'on mène, évidemment, il y a aussi, non, je veux dire, 4 jours, parce que 3 jours, parce qu'il y a le rallye aussi moto qui est en mois de juillet, et là, pareil, ça pollue, vous ne rendez pas compte ce que ça fait. Mais le développement durable, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi le social et l'environnement et l'économique. Et c'est aussi le bien-être des gens. Et quand les gens sont, quand on voit la population qu'il y a, et d'ailleurs, je crois bien t'y avoir vu plusieurs fois, autour du rallye moto également, pour assister au défi Mania. C'est aussi le bien-être des habitants, de profiter de moments en famille ou entre amis sur une manifestation qui ramène du monde et qui donne un petit moment de bonheur aux gens. Alors évidemment, ça ne masque pas toutes les actions qu'on mène tout au long de l'année sur...
Un degré 5 de réchauffement climatique Champagne depuis 15 ou 20 ans.
Mais est-ce que la ville d'Épernay a été la première...
Donc, il y a peut-être un moment, il va falloir se bouger. Là, aujourd'hui, on admet que les choses...
Monsieur Angers, vous avez demandé à ne pas être interrompu.
Quand vous vous rendiez au titre de l'Association régionale des régions viticoles, vous alliez en avion en Russie ou au Brésil ou je ne sais pas où, vous n'y allez pas en barque ou en bateau non plus. Donc il faut aussi du kérosène pour faire monter les avions. Mais il y avait un but derrière votre action qui était tout à fait louable. Donc c'est la même chose aussi pour ce qu'on mène à Épernay. Il y a des actions... tous les jours, qu'on mène en termes de biodiversité, en termes de mobilité, en termes de rénovation thermique des bâtiments, d'incitation pour les habitants à rénover leur logement. On a plusieurs actions. Évidemment, ça met du temps à monter, mais dans l'année, vous aurez des projets concrets pour faire réduire les gaz à effet de serre ou le dioxyde de carbone. Alors oui, nous ne sommes pas pour l'écologie punitive. On veut convaincre les gens sur le changement de pratique. Mais vous avez promis d'interdire la bagnole en ville. Vous ne l'avez pas promis lors des élections, hein. Vous l'avez fait après, quand les élections étaient passées, parce que
ça serait... On a promis un contournement de la ville.
Je me souviens... c'est pour interdire la voiture en ville, le contournement de la ville.
Déjà, virer tous les camions.
C'est pas tout à fait la même chose pour moi. Mais c'est de la politique, c'est de la sémantique, vous avez raison. Cela dit, nous avons une petite volontariste. Nous, on a rénové le parking du centre-ville pour pouvoir...
Parce que, en accueillir encore plus.
Bien sûr. Ah, bien sûr parce que les commerces du centre-ville, demandez-leur s'ils veulent interdire les bagnoles en ville, on verra s'ils vous diront oui ou non. Parce que les grands centres commerciaux comme Camp Montreuil, etc., c'est gratuit le parking et on peut se garer facilement. Donc il faut du stationnement facilité pour les habitants et ceux qui habitent aux alentours d'Épernay. On n'est pas Strasbourg, on n'est pas Paris non plus. C'est tout à fait différent.
Par contre, on aura des emplacements pour les véhicules électriques. On met en place la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques.
Donc il faut conserver quelques exemples qui vont mal.
Il faut encourager les personnes à choisir des automobiles qui soient de plus en plus performantes sur le plan écologique. on va vers la voiture électrique, qu'on le veuille ou non, dans 5 ans ou dans 10 ans, on sera même dans la voiture automatique qui conduira à votre place, pratiquement. Mais c'est une tendance lourde. Et penser que l'avenir de la ville, c'est sans la voiture, c'est, à mon avis, une lourde erreur. Mais enfin, on ne va pas ouvrir ce débat ce soir, parce qu'on pourrait, jusqu'à minuit ce soir...
Non, on aura l'occasion, dans les éléments de votre primaire.
Bien d'autres occasions.
On parlera de gaz de schiste à ce moment-là.
Bien, il y avait M. Klein et puis Mme Perrin.
Oui.
Se dire pour le Salman Hazard. Parce que moi, j'ai... Il y avait longtemps. Hein.
Non, c'est la formulation qui me dérange.
C'est-à-dire
aide à l'acquisition du matériel. Alors qu'en fin de compte, c'est la municipalité qui supporte l'intégralité de la somme. Parce qu'en commission, j'ai demandé le montant de l'achat. Et on m'a dit 7950 ou un truc comme ça.
7956, oui.
Voilà. Et donc là, c'est la municipalité qui supporte la totalité de la somme. Donc là, c'est plus une aide.
Vous essayez.
J'aime pas trop la formulation.
Monsieur Klein, essayez de trouver une seule subvention où des centimes soient indiqués. On aurait pu, dans ce cas-là, mettre 7950.
Non, mais c'est pas grave.
C'est le mot aide à l'acquisition.
Oui, c'est le mot aide qui me surprend. C'est pas les centimes, c'est pas ça qui me dérange. C'est le mot aide. Parce qu'il y a des subventions. Il y a des subventions. On a le coût total et on a le chiffre de la subvention qui est partiel. Avec ça, c'est la totalité.
Et bien d'accord.
Donc abstention pour ça, madame.
Abstention. Madame Perrin.
Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Pour l'association sportive de l'Automobile Club, il y a 9 000 euros de subvention et on n'a pas le coût total de l'opération. On ne sait pas si ça couvre complètement ou pas.
180 335 euros.
Il y a les
centimes. J'ai arrêté à 335 euros.
Oui. Il va sans dire que je partage tout à fait ce que vient de dire mon camarade de gauche, mais moi je voudrais aller encore un petit peu plus loin, parce que non seulement toutes ces manifestations, elles servent toujours les mêmes, c'est-à-dire les hôteliers, les restaurateurs, mais au centre-ville il y a aussi des gens qui sont empêchés, qui ont du mal à traverser Épernay. Déjà en temps normal on a déjà du mal à le traverser. Donc là, quand il y a une manifestation comme ça, c'est encore pire. Et les commerçants du centre-ville, il y en a certains qui se plaignent. Pardon ? Oui, sauf que ça sert toujours les mêmes personnes et ça dessert toujours les mêmes personnes. Et à côté de ça, on voit quand même qu'il y a des choix qui sont faits, qui sont très orientés. Puisqu'on va donner 9 000 euros à ce type de manifestation. Par contre, des gens qui travaillent au quotidien, pour deux jours de manifestation, 9 000 euros, des gens qui vont travailler au quotidien sur la création de liens, on leur donne 500 euros d'aide de fonctionnement.
Mais on ne peut pas comparer, Madame Perrin, on ne peut pas comparer.
Sauf que là les Sparnassiens, ils vont profiter de l'air... putréfié par les véhicules pendant deux jours. Par contre, là, ils pourraient profiter au quotidien de choses et c'est 500 euros de...
Non, mais on peut en aucun cas comparer une manifestation d'envergure nationale, parce que je rappelle que c'est la première épreuve du championnat de France qui se déroule à Épernay chaque année depuis deux ans maintenant pour le championnat de France, première épreuve de la nouvelle, du nouveau championnat. Et une association qui s'occupe du lien social dans un quartier ou autre. On a différents types d'associations, différents types de budgets aussi en face, parce que les besoins ne sont pas les mêmes.
C'est vrai que la montée de la xénophobie, du racisme...
Non, mais attendez.
Ce n'est pas important.
Là, c'est de la démagogie, Madame Perrin.
Et ce n'est pas national.
C'est de la démagogie, parce qu'encore une fois, si on comptabilisait la totalité du budget du CCAS consacré à l'action sociale de la ville, on serait bien au-delà du budget des sports, par exemple. Donc, il faut savoir rappeler qu'effectivement, toute notre action dans le domaine social ne passe pas par les associations, que nous les soutenons fortement et efficacement, que par ailleurs, nous votons des budgets importants, mais on ne peut pas faire le raccourci entre une association qui s'occupe de problèmes locaux et le lien social est important et c'est la raison pour laquelle on le soutient, et avec un rallye d'envergure nationale qui contribue à la promotion de la ville, qui apporte du plaisir aux gens, qui contribue à faire connaître Épernay dans le monde de l'automobile et qui correspond, j'allais dire, à aussi, comme l'a dit fort justement Jonathan tout à l'heure, une attente de la population. Donc, alors certes, les deux sont dans le même rapport, mais encore une fois, c'est l'organisation de nos débats qui veut que toutes les subventions, on les vote ensemble. Un dernier mot pour Marc Lefebvre. Oui.
J'avais posé une question écrite, là. Est-ce qu'on la verra à la fin?
Oui. On peut y répondre, si vous voulez, mais j'avais prévu de le faire à la fin.
Bon, d'accord, parce que ça rejoint tout ce qui a été dit.
Oui, Christian.
Je propose simplement que, étant donné que le mot « aide à » et même l'article est l'apostrophe, « aide à » est l'apostrophe dans la délibération pour le Salmanazar, subvention équipement, comme ce mot « aide » gêne certains collègues du conseil municipal et que ça les conduit à s'abstenir, je propose qu'on supprime et qu'on mette simplement « acquisition de matériel ».
Ça vous va, Monsieur Klein? C'est... Ah, bon. Alors, sur ces différentes subventions, si j'ai bien compris, on va mettre de côté les associations pour lesquelles vous souhaitez des votes différenciés. Pour le reste du rapport, avis contraire, abstention, c'est adopté. Donc, on sépare le rallye. Donc, pour le rallye, qui est contre? 2. Qui s'abstient? 2. Le reste, c'est pour. L'autre vote, c'est le Salmanazar, enfin l'acquisition de matériel pour le Salmanazar. Qui est contre? Qui s'abstient? 3. Donc le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2i, Jacques Fromm, mise en place du procès verbal électronique.
Merci, Monsieur le Maire. Chers collègues, je vous propose d'approuver la mise en place du procès verbal électronique et de valider la convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Le procès verbal électronique consiste à remplacer progressivement le procès verbal papier et la chaîne de traitement administrative afférente par un traitement entièrement dématérialisé. Bien sûr, le contrevenant sera avisé de sa verbalisation par l'apposition d'un avis d'information sur son pare-brise. Je vous propose donc d'approuver la convention annexée au rapport en votre possession.
On peut dire que la plupart des villes se sont déjà dotées ou se dotent de ce processus qui a été élaboré par les services de l'État et mis à disposition de l'ensemble des collectivités qui... Angers.
À la première lecture de cette délibération, comment dire non? On est obligé de dire oui, parce qu'on va quand même dans le sens du... dans le sens du progrès, on améliore les conditions de travail des agents qui n'ont pas besoin de se balader avec 4 ou 5 calepins. Mais attention à la manière dont on utilise ça. Et il y a une réflexion de Jonathan Rodriguez, moi, qui m'intrigue et qui me conforte dans mon impression par rapport à ça. C'est de dire, l'objectif, c'est quand même de faire rentrer le maximum de voitures dans la ville. C'est ce que tu as dit il y a 5 minutes. Parce que derrière cette délibération, il faut savoir que ça s'inscrit dans un cadre de la réforme de la politique de stationnement qui doit être portée devant le législateur, je crois, en deuxième courant d'année 2016, pour une modification en 2018. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une décentralisation du bénéfice des PV. Hein, donc qui seront versés directement aux collectivités. Donc il ne faut pas qu'on utilise cette délibération et cette orientation de manière perverse comme étant un outil pour améliorer des rentrées financières pour la ville. Moi, je crois qu'il faut rester dans un cadre très précis où on laisse, je dirais, à l'usage des PV leur destination de verbalisation de gens qui gênent le code de la route, le code du stationnement, etc. Ça, je l'entends parfaitement. Derrière, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on adopte ça en dehors de toute stratégie politique liée au stationnement. Parce que quand je dis qu'il faut sortir les véhicules de la ville. Je comprends qu'on ne les sortira pas demain matin comme ça d'un coup de baguette magique, mais je pense qu'il y a des orientations à donner très nettes dans certains quartiers, notamment les quartiers de commerce, pour faire en sorte qu'il y ait moins de véhicules, qu'il y ait des facilités d'accessibilité aux piétons ou au transport doux. Tout ça, ça passe par une analyse très précise du nombre de places de stationnement par quartier, avec un échéancier, je dirais, pour essayer de réduire l'impact du stationnement dans certains quartiers. Et je pense que ça, il faut absolument lier une telle délibération à une stratégie politique en matière de stationnement qui vise quand même à faire en sorte que dans certains quartiers, eh bien, on enlève un certain nombre de véhicules qui n'ont rien aujourd'hui à y faire. Et moi, je crains que la manière dont les choses sont en train de se mettre en place, demain, on a tout à gagner à ce qu'il y ait quand même de plus en plus de véhicules dans cette ville, de plus en plus de gens verbalisés pour améliorer demain la situation financière de la collectivité. Alors je veux être rassuré sur ce point, sur cet aspect.
Monsieur Angers, vous êtes un vieux sparnassien maintenant, qui marche à pied. Mais vous avez connu comme moi, enfin vous avez connu même peut-être avant moi cette ville. Vous vous souvenez de la place Hucplon autrefois, qui était un grand parking de voitures. Vous vous souvenez peut-être pas, parce que je pense que vous n'étiez pas encore à Épernay, je n'y étais pas non plus, de la rue Saint-Thibault qui était circulée autrefois et qui ne l'est aujourd'hui que par les transports publics. Vous connaîtrez, je l'espère, le Jard sans véhicule, puisque on aura pu dégager des espaces pour faire en sorte de libérer de l'espace pour les piétons. Il y a une tendance lourde qui veut qu'on maîtrise la place de la voiture dans les centres-villes. On ne peut pas la supprimer totalement. Supprimer la voiture en centre-ville, dans l'état actuel des choses, c'est supprimer le commerce ou condamner une partie du commerce. On ne peut pas prendre ce risque-là. Il y a une époque... Alors, toutes les villes n'ont pas la même configuration, mais il y a une époque où on est passé du tout-voiture ou à plus aucune voiture, et finalement, on est revenu à une situation intermédiaire qui consiste à avoir une mixité des usages, où on donne de plus en plus de place aux circulations douces, au détriment des véhicules. Donc, il est hors de question d'encourager de manière systématique l'arrivée de plus de voitures en ville, mais pour autant, on doit tenir compte des flux urbains quotidiens, on doit tenir compte des flux touristiques, et de ce point de vue, je ne peux pas vous laisser dire qu'on n'a pas une politique de stationnement au moment où on est en train de terminer un parking qui a coûté plus de 4 millions d'euros à la collectivité, où on a mis en place des révisions tarifaires importantes, où on a mis en place la première heure gratuite, où on a fait en sorte de moderniser l'offre de stationnement. Et ça n'est que le début, puisque après la modernisation du parking des arcades, il y aura nécessairement la modernisation de l'offre de stationnement sur le Jard, notamment, si on veut un jour pouvoir restituer ces espaces aux Sparnassiens, ce qui figure parmi nos engagements. Et j'ai cru comprendre que tout le monde souhaitait qu'un jour on puisse retrouver un Jard plus fleuri, plus végétalisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, encore une fois, penser que la voiture est l'ennemi absolu, c'est une erreur. Je pense que les constructeurs le démontrent chaque jour et le démontreront plus encore dans les 5 ans qui viennent. Le véhicule électrique, je ne vais pas reprendre, va supplanter d'ici 15 ou 20 ans le véhicule thermique. Les véhicules thermiques vont eux-mêmes voir leur consommation diminuer dans des proportions assez incroyables. Mais ce véhicule, cette mobilité est vitale pour tous les centres-villes, pour tous les centres commerciaux, pour tous les centres d'activité. Donc, éloigner les voitures des centres d'activité, c'est tuer ces centres d'activité. Ce qu'il faut, c'est effectivement, par un dosage que l'on souhaite le meilleur possible, faire en sorte de rendre compatibles les usages du quotidien, les usages économiques avec le bien-être des habitants, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Personne n'a trouvé la recette absolue. Je pense qu'on est loin d'être... les villes françaises sont loin d'être les villes les plus polluées, d'une manière générale, à l'exception peut-être de la région parisienne, compte tenu de la dimension de cette région dont le développement n'a pas forcément toujours été maîtrisé au cours des dernières décennies. Mais d'une manière générale, on a des villes dans lesquelles on voit les progrès du transport public de manière constante. Vous parliez de Strasbourg tout à l'heure, je peux observer ce qu'il en est à Strasbourg, puisque ça a été l'un des premiers tramways installés en en France et ça a rendu évidemment un espace public important aux collectivités locales. À nous d'innover en matière de transport, de déplacement public, de façon à ce qu'effectivement on ait moins recours à la voiture, mais la voiture sera toujours présente. Elle fait partie de notre existence et je n'imagine pas une seconde qu'on puisse passer de la voiture demain. Oui.
Oui, je tiens à repréciser mes propos. Évidemment, si on peut éviter... Mais non, mais d'accord, mais je vais repréciser si je me suis mal exprimé. À ce moment-là, on va le refaire à l'envers, à l'endroit. L'idée de ce centre, de ce parking centre-ville, parce que je ne vais pas faire toute la politique de développement durable non plus, hein, sinon on en a pour deux heures, mais l'idée de ce parking centre-ville, c'est qu'on puisse se positionner et une fois qu'on est garé, on ne bouge plus d'ici, et que les gens puissent faire le reste à pied, avec des accès facilités, avec des entrées et des sorties beaucoup mieux identifiées qu'aujourd'hui. Parce que c'est aussi une question de changement de comportement, et le changement de comportement de tous ne se fait pas du jour au lendemain, ça prendra 10 ans de dire. On a fait les subventions pour les vélos électriques. C'est un succès, l'enveloppe est prise en 2 mois, 3 mois. On peut en rajouter si on veut. Mais on a demandé aux gens comment ils utilisaient, pourquoi ce vélo électrique, à quel usage. Est-ce que c'était pour remplacer un vélo? Est-ce que c'était un véhicule de plus dans le foyer? Ou est-ce que c'était pour remplacer un véhicule thermique? Sur les 13 premières qu'on avait distribuées, il y avait deux ou trois, bon, certains n'avaient pas répondu, mais deux ou trois personnes, avaient déclaré revendu leur deuxième véhicule et remplacé leur voiture par ce vélo. Donc il y a un changement de comportement qui doit se faire. Et il y a plusieurs initiatives là-dessus. Mais je pense qu'interdire la voiture du centre-ville, ça ne peut pas se faire en raison de la taille de la ville. Tous les villages qui sont autour où on n'a pas de transport en commun, qui vont par exemple jusqu'à Haï, pour citer que celui-là, mais ces gens d'Haï qui viennent à Épernay viennent se garer en centre-ville. Bon, demain, on leur interdit l'accès, ils iront ou à Reims ou à Cormontreuil. C'est pas aussi l'équilibre. Il faut l'équilibre du commerce, il faut l'équilibre, etc. Mais il y a toute une panoplie d'actions à mettre en place, à développer sûrement. On a un plan de déplacement inter-entreprise qu'il y a sur l'avenue de Champagne, qui est aussi le gros cœur de l'activité économique. Il y a un flux énorme de salariés qui viennent travailler sur l'avenue de Champagne tous les jours. Il y a des milliers de personnes. Là, il y a sûrement... qui ne marche pas, mais qui remontent... très bien. Ce n'est pas en disant ça que ça va avancer. Hein. Il faut proposer des solutions. Et on y travaille là-dessus. Mais il faut aussi des financements en face. On ne peut pas faire ça tout seul non plus. Et le changement de comportement, c'est pareil. Ce n'est pas en disant « je vais le faire, puis demain, c'est fini ». Il y a 10 ans de travail, au moins 10 ans pour changer le comportement des gens. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Il y a des initiatives qui sont faites. Et on a annoncé dans le courant de l'année la mise en place d'une aire de covoiturage pour la sortie vers Reims. Bon, eh bien, on va le faire cette année. Il faut qu'on regarde des détails techniques, puisqu'il y a des travaux à effectuer avant de mettre ce parking. C'est des solutions qui participent à ces réductions de l'usage de la voiture. Mais c'est pas... l'idée de ce parking, c'est quand même de guider le flux qui est aujourd'hui en aérien, de le mettre en souterrain, et ensuite, une fois que cette habitude sera prise, c'est de regarder comment le stationnement fonctionnera et comment on peut travailler sur une meilleure qualité de vie en aérien.
Un mot, Madame Perrin, un mot, monsieur.
Il y a quand même des parkings près du Millésium qui ne servent jamais. On pourrait très bien, à un moment donné, dire on parque les voitures là et il y a un transport en commun qui fait la navette. Ça se fait dans pas mal de villes, d'avoir des parkings périphériques avec un transport en commun qui achemine les gens vers le centre-ville. Et ça a quand même... Enfin, voilà. Je veux dire, je traverse Épernay tous les jours. Je peux te dire que ça me prend... Il y a des fois, ça me prend une demi-heure pour traverser Épernay. Bon, à un moment donné, il y avait un projet de contournement qui a été abandonné, qui faisait suite au deuxième pont de la Marne. Hein, voilà. Mais à un moment donné, oui. Enfin, voilà, il y a déjà des véhicules qui traversent le centre-ville, qui n'ont rien à y faire, mais qui sont dans l'obligation de traverser la ville. Hein. Et à un moment donné, même pour l'attractivité de la ville, moi je vais dire, je vois les gens avenue de Champagne qui prennent des photos, etc. Il y en a, il faut qu'ils attendent que le flux de bagnole ait fini de passer avant de prendre la photo qu'ils souhaitent prendre.
N'exagérons rien, Madame Perrin.
Oh, avant,
je rappelle quand même qu'il y avait des voitures stationnées du bas en haut et qu'à toute heure du jour et de la nuit, pratiquement, en tout cas du jour, vous aviez des voitures au premier plan. On a chassé les voitures de l'avenue de Champagne au niveau du stationnement.
Et il y a des riverains comme avenue Foch, par exemple, qui vivent un enfer.
Bien, Je propose qu'on revienne quand même sur le stationnement.
Oui, non, d'accord. Simplement pour dire, vous faisiez allusion à la rue piétonne Saint-Thibault, c'est la gauche qui l'a réalisée avec Jacques Perrin à sa tête. Donc là, je voulais simplement, du point de vue technique...
Ah, c'était la gauche qui avait réalisé la piétonnisation.
Oui.
C'est Bernard Stasi qui, de mémoire, a remis les transports publics de façon à accélérer l'efficacité du dispositif. Je ne sais plus si c'est Bernard Stasi ou c'est moi-même, peut-être. Je n'ai plus la date. On va faire en sorte que les transports publics seuls puissent emprunter l'avenue, la rue Saint-Thibault, de façon à raccourcir les trajets du transport public et renforcer l'efficacité et la performance du système de transport public. Je ne sais plus quand c'est. C'était peut-être moi, voyez donc. On ne pourra pas m'accuser
bon,
de...
Donc,
je revendique, mais...
Je voulais intervenir, monsieur le maire, sur la délibération au niveau technique. Là, nous allons acheter 4 terminaux portatifs. Je crois que nous avons plus de 4 agents, parce qu'il est bien noté, là, dans la charte Antais, ANTAI, que chaque agent est équipé d'une carte à puce personnelle. Il ne doit pas donner son code, c'est l'identifiant. Et lorsque l'agent quitte, le matériel est récupéré et ne peut être utilisé par un autre agent. Alors là, je crois, comment on va faire? Parce qu'en commission, j'avais posé un peu la question. On m'a dit que les agents étaient par deux, etc., qu'il y aurait un portatif pour deux. Mais là, c'est impossible. C'est personnel.
On est dans une démarche d'expérimentation, on teste le dispositif. Si c'est concluant, on complétera la dotation.
Oui.
Il est évident qu'il faut que chacun de nos employés ait des moyens de travail. Actuellement, ils ont des carnets à souches. Demain, on va passer avec ce système électronique. Comme la technique évolue très vite, il n'est pas impossible que ce matériel évolue et on complétera avec de nouveaux matériels.
Non, mais dans ce... texte, il est impossible à un agent de passer son portatif à un autre agent.
Non, d'accord, mais les autres continueront.
Donc, il n'y a que 4 personnes.
Non, mais les autres continueront avec le carnet à souche habituel. Et puis, quand la nouvelle génération de matériel arrivera...
Ça n'avait pas été bien exprimé. Hein. Et puis, naturellement, ça nécessitait un contrat de logiciel, des logiciels, une formation, etc. Donc, il y a un coût aussi à évaluer.
Tout à fait. Sur ce rapport, avis contraire, abstention... 2 abstentions. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3A, Magali Carbonel.
Oui, merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération concerne des impasses, c'est-à-dire des petites rues où on n'est pas en voiture, on est essentiellement à pied. Elle résulte de la livraison en novembre par Plurial de petites maisons qui sont situées à l'angle du chemin des Côtes et de l'avenue d'Ettlingen. Je vous propose donc de rattacher administrativement ces nouveaux numéros de voirie au périmètre scolaire des écoles maternelles et élémentaires Crayères sur lequel elles se situent, en vue de l'inscription scolaire des enfants qui résident à ces adresses. Alors, il s'agit donc du 2 au 18 impasse des Sources et le numéro 2 impasse de la Vôtre, en sachant que pour l'instant, on n'a qu'une famille avec un enfant, mais dans l'avenir, on peut en avoir davantage.
Merci. Pas de questions, pas de... Oui.
Voilà. En commission, donc, j'ai posé la question. Ce sont des impasses privées. Je crois qu'on m'a répondu oui.
Oui.
Et
oui.
Pour
oui.
Nommer des impasses, ça revient bien à la municipalité. C'est pas les privés qui nomment les impasses.
Mais oui, mais ça, oui, c'est mais... de l'autorité.
C'est une voie privée pour l'instant. Et je n'ai pas le sentiment qu'elle change de statut. Donc le privé peut un peu appeler son impasse comme il le souhaite. Il n'y a pas d'obligation particulière dans la mesure où ça reste une voirie à statut privé.
Comment c'est reconnu par le public, par le service public, par la poste, etc., si c'est officialisé par la municipalité? C'est étonnant qu'une impasse...
Où il y a l'impasse des Tilleuls ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça.
Le clos des Tilleuls.
Oui, bon, bah, c'est considéré comme une voie. Mais ça existe. Après, il y a des voies privées comme le passage Rondeau, par exemple, qui historiquement sont une voie privée, mais qui existe depuis plus de 100 ans, et qui n'ont pas eu de difficulté à être identifiées. Maintenant, parce que si tant est qu'on met une plaque dessus, bon.
Mais ça, c'est un acte de monsieur le maire, ça.
Les habitations, enfin, les propriétaires ou les locataires, enfin, oui, souvent les propriétaires demandent un certificat de numéro de plaque.
Oui. Ou le promoteur, ou le. En général, le certificat de numérotation est demandé à la ville, mais...
Oui, oui. Donc,
Madame
là,
Perrin,
voilà. Oui.
Bonnel a en partie répondu à ma question, mais je voulais savoir si le rattachement de ces deux impasses permettait de revenir sur la fermeture de classes de Créa.
Non. Absolument pas, ça n'a absolument aucun rapport. La fermeture d'une classe de Crayères ne relève pas du tout, de toute façon, de la ville. Hein, ça relève de l'éducation nationale.
Du nombre d'enfants qui fréquentent.
Oui, mais là, oui, c'est un enfant, une famille, voilà, un enfant. Donc peut-être que dans l'avenir, il y aura deux ou trois enfants.
Non, pour l'instant, mais il y aura peut-être quelques autres. Mais
voilà, c'est un petit pâté de maisons. Vraiment, ça n'aura aucune incidence sur la population de l'école Crayères. C'est vraiment...
Pas d'autres questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3B. Magali Carbonel, toujours.
Alors, la commune de Boursault a sollicité la ville d'Épernay, qui dispose d'un parc de mobilier scolaire et de matériel pédagogique pour voilà, des écoles maternelles et élémentaires sparnassiennes. Donc, je vous propose donc de procéder au préalable à la désaffectation matérielle du service public de ces biens et à leur sortie du patrimoine communal.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4 à Jacques Fromme.
Chers collègues, les tarifs appliqués aux forains ont été revus après consultation des représentants forains le 31 mars dernier. Pour 2016, il est proposé une augmentation de 1% sur les droits de place et le forfait électrique, sauf pour la fête du quartier de la Villa. Je voulais simplement attirer votre attention sur deux points nouveaux. Il est proposé également un nouveau forfait pour la fête foraine de septembre pour les grands métiers implantés sur l'espace dit de la poche. Ce forfait est à hauteur de 700 euros pour les métiers supérieurs à une surface de 600 m², ce qui permettra d'accueillir en cet espace des métiers, un métier beaucoup plus grand et beaucoup plus important qui rendra une attractivité plus forte à cette poche.
La poche est évidemment
après la sous-préfecture. Il est également proposé la création d'un forfait de frais de dossier qui sera appliqué aux industriels forains qui n'ont pas retourné leur dossier complet au service instructeur. En effet, certains forains tardent à renvoyer leur dossier avec les assurances et tous les documents qu'ils doivent nous fournir. Et cela nécessite des rappels incessants de nos services et qui entraînent des frais supplémentaires. Donc pour inciter les forains à nous renvoyer les dossiers complets, on a décidé, comme d'autres villes d'ailleurs, d'implanter ce forfait frais de dossier. Je vous propose donc d'approuver les tarifs selon le tableau figurant dans votre rapport en votre possession.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. On passe au rapport 4B. Pierre Marandon.
Merci, Monsieur le Maire. Comme chaque année, je vous invite à adopter les tarifs des différents accueils de loisirs du mercredi des petites et grandes vacances, organisés en complémentarité et partenariat par les services éducation, jeunesse et cohésion sociale. Je précise que ces tarifs prennent en compte les tranches de quotient familial transmises par la CAF, ainsi que la déduction opérée par ces mêmes bons CAF ou MSA. Quant au tarif extérieur, lui correspond au coût réel de la prestation.
Oui.
Petite question. Comment sait-il que pour les 2-6 ans, ce soit plus cher que pour les 6-13 ans ?
Je suis sûr que tu as la réponse, parce qu'il y a beaucoup plus d'encadrement sur les 2-6 ans que sur les 6-13 ans. Il y a un encadrement supérieur, un taux d'encadrement supérieur chez les petits que chez les plus grands.
Moi, je ne trouve pas ça forcément juste de le répartir comme ça.
Ben oui, mais...
Parce que quelque part, les petits mangent moins ou que le plus grand.
Ah, bon, on mange moins, voilà. Ça, c'est pas vrai.
Pardon ? Ouais, mais bon, Astrid, quand même, entre un gamin de 3 ans et un gamin de 12 ans, il y a quand même pas photo, quoi.
C'est pas bien.
Ou alors, qu'il y en a.
Monsieur Lefebvre.
Oui, concernant les tarifs. Par exemple, les plus de 659 euros sont moins chers que ceux du dessus, c'est-à-dire de 660. Non. Je voulais poser comme question. Vous l'avez déjà posé dit l'an dernier ou les années précédentes. Non, je me suis trompé là. Pour la MSA, les bénéficiaires. Donc, ont un tarif fixe, quels que soient les revenus. Il n'y a pas d'indice de tarif Bernet bénéficiaire, MSA, 9,50 par exemple brut, que les gens aient des petits revenus ou des gros revenus, c'est pareil. Oui, mais la MSA ne prend pas tout en charge aussi. Ben, les tarifs MSA en général. En haut, là, premier tarif. Oui, mais ça, celui qui a la MSA, il paie presque toujours plus que les autres, hein. Quel que soit son indice.
Donc on est plus facile.
Ou très modestement, parce que c'est pas les mêmes.
La ville pourrait faire une proportion autre.
Voilà.
Ah oui, je.
Bien, pas d'autres questions? Avis contraire, abstention? Oui.
Il n'y a pas de tarif en baisse pour les familles qui inscrivent plusieurs enfants.
Ils ont déjà, par le fait, un tarif réduit par rapport à 4 enfants. J'imagine que ton quotient est plus bas que si tu as qu'un enfant. Donc il a déjà forcément un tarif qui tient compte de la situation familiale.
Bien, avis contraire sur ce rapport, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4C. Christian de Mongin.
Merci, monsieur le maire. Nous grouperons les rapports 4C, D et E qui concernent tous les trois des conventions passées dans le cadre du festival Voilà l'été. Ce sont donc trois conventions. La première avec la Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne qui participe au financement du festival. La seconde avec l'hôtel Première Classe qui prendra à sa charge des nuitées des artistes reçus pendant le festival et également pour quelques nuitées pour la fête de la bière. Et une troisième convention qui fixe les aides au nouveau festival latin, festival du film latin d'Épernay. Normalement, ça se dit dans l'autre ordre, mais j'ai peur que mon accent anglais ne soit pas terrible. Donc, le festival du film latin d'Épernay. Ouais. En espagnol, pas seulement, parce que le film latin a pour but de présenter des films de tous les pays dont les langues sont originelles du latin. Donc, il faudrait parler en roumain, en provençal, etc., etc. Donc, bref, je vous propose donc de considérer ces trois conventions telles qu'elles vous sont présentées. Merci.
Merci. Madame Perrin.
Oui, mais Christian, est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, quel budget ça représente les nuitées?
Les nuitées, ça fait 25 nuitées à l'hôtel Première Classe. L'hôtel Première Classe, quand on passe devant, c'est généralement entre 40 et 45, selon les... Voilà. Et il y a déjà 25 nuitées pour le festival et quelques-unes dont je n'ai pas vraiment le chiffre. 35? Donc voilà.
Oui.
Sur la 4E, donc y a-t-il du nouveau sur la programmation, sur les titres de films? Et puis je vois que la convention est très précise, donc la ville paie donc les apéritifs, les cocktails, et c'est marqué qu'il y aura des gougères, c'est vraiment le détail. Et puis un peu plus loin dans l'article 4, l'association devra justifier d'une assurance auprès d'une compagnie solvable. Alors, comment vous jugez que les compagnies d'assurance sont solvables?
De préférence qu'elles ne viennent pas de Panama.
Ou n'ont pas de filiale.
Sinon, en ce qui concerne le champagne et les gougères, c'est surtout pour indiquer la limite de la somme qui pourra être indiquée, qui pourra être versée. Parce que si on marque cocktail, ça peut être très un petit peu trop cher. Il faut bien aussi comprendre que ce n'est pas la ville qui organise. La ville, après avoir longuement discuté avec les organisateurs, décide de les aider dans cette première édition d'un festival qui, normalement, a un retentissement international. Il paraît qu'au Brésil, des organismes touristiques sont déjà en train de prendre tout ça en considération. Donc, nous aidons les organisateurs, mais nous ne sommes pas organisateurs, d'où les termes très précis de la Convention.
Bien, je vous propose de voter ce rapport. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons donc au rapport 5 à Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de poursuivre la cinquième campagne de ravalement de façade du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2018 et d'approuver les critères et le mode d'attribution tels que précisés dans le rapport en votre possession.
Merci.
Donc, je vous rappelle simplement, enfin, c'est précisé dans le rapport, mais que depuis 13 ans, depuis que nous avons entamé cette campagne de ravalement, 860 000 euros d'attribution de subventions ont eu lieu pour un montant total de travaux de 4,4 millions d'euros.
Merci.
Ce qui a permis de faire
également,
travailler.
On voit également le résultat dans certaines des rues.
Ce qui a permis de faire travailler les entreprises du bâtiment.
Merci. Pas d'opposition sur ce rapport ? Pas d'abstention, le rapport est adopté. Donc le rapport 5B est donc retiré. Nous passons directement au 5C, toujours Anne-Marie Legras.
Alors je vous propose de passer trois délibérations, donc la 5C, la 5D et la 5E. Chers collègues, je vous propose d'acter les modalités de cession et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes nécessaires pour les propriétés suivantes. Donc en ce qui concerne la délibération 5C, une parcelle d'environ 2200 m² située sur la commune de Notre-Dame de Bellecombe, au profit de monsieur et madame Fougerousse, au prix de 350 000 euros. Pour la 5D, les parcelles cadastrées B1 numéro 3 et 4, pour un montant net vendeur de 360 000 euros, à la SA d'HLM Plurial Novilia, qui prendra en charge les démolitions et le désamiantage. Il convient pour ce bien, précédemment affecté à un service public, de procéder à sa désaffectation et à son déclassement. Enfin, il vous est proposé, compte tenu de l'intérêt pour la commune de favoriser la réalisation de cette opération au bénéfice de nos seniors, d'autoriser la gratuité de l'occupation du domaine public le temps du chantier. Et donc pour la 5E, je vous propose de procéder à la désaffectation et au déclassement d'un bâtiment situé dans le parc de l'horticulture qui n'est plus affecté à un service public depuis l'été 2014, afin de permettre sa mise à disposition de l'association qui occupe le local contigu. Donc tous les détails de ces propositions sont développés dans les documents en votre possession.
Merci. Des questions ? Oui, monsieur Lefebvre.
Oui. Donc, sur la première délibération, donc sur Notre-Dame de Bellecombe, donc j'avais demandé ce que ça voulait dire UNCA. On peut me le dire ce soir, peut-être.
Zone constructible.
Comment ? Zone non constructible. À quoi servira l'argent ? Est-ce que l'argent sera investi à Bellecombe ou est-ce qu'il reviendra pour d'autres actions de la municipalité ? Il faudrait peut-être qu'on fasse un conseil municipal décentralisé pour connaître bien les locaux.
Il y a eu une réunion, vous aviez sollicité une réunion. Je crois que Mme Mazzi s'est retrouvée seule avec le président.
Oui, tout à fait. Vous aviez sollicité lors du conseil municipal de février une rencontre avec M. Grognier, puisque suite à la CCSPL de janvier, certaines questions que vous aviez posées étaient restées sans réponse. Donc, à votre demande, nous avons organisé une réunion avec M. Grognier. C'était en date du 1er avril. Et on a bien cru que c'était un poisson, puisque personne ne s'est présenté à cette réunion. Donc je me suis retrouvée seule avec M. Grognier, qui m'a aimablement répondu à toutes les questions, mais personne ne s'est, n'est venu. Donc aucun des membres de cette commission n'était présent.
Non, l'engagement que j'ai toujours pris en ce qui me concerne à l'égard de la FRMJC, quand l'ex-MJC a disparu et a souhaité que la ville récupère pour l'euro symbolique ce bien, c'est que les produits de ce bien soient réaffectés à ce bien. Pour autant, on ne va pas dépenser l'argent pour dépenser l'argent. Je veux dire par là qu'il y a sans aucun doute un projet de modernisation du chalet qui s'impose. Il faut qu'on se mette autour d'une table, il faut qu'on détermine son orientation. Il a été pensé pour permettre à des familles sparnassiennes, modestes ou de conditions, on va dire, moyennes, d'y accéder, à la jeunesse, d'accéder au loisir de la montagne l'été ou l'hiver. Il faut qu'on conserve cette vocation première et qu'on en profite pour, un, mettre le chalet aux normes quand il ne l'est pas, et deuxièmement, créer les conditions pour que un maximum de familles sparnassiennes puissent s'y rendre et profiter de vacances à des coûts acceptables. Donc il y a un travail de conception à imaginer pour conserver évidemment la structure de ce chalet et repenser sa modernisation pour qu'il puisse être plus profitable demain aux familles d'Épernay. C'est en ce sens que j'avais pris un engagement à l'époque. Et je souhaite, en ce qui me concerne, que les sommes qui sont récupérées sur la vente de ces terrains qui sont voisins puissent prioritairement, et rien ne sera touché de ces sommes tant qu'on n'aura pas effectivement déterminé un projet permettant à ce chalet de trouver une deuxième vie qui doit rester aussi conforme que possible à la première, à savoir effectivement profiter aux familles d'Épernay, quelles que soient leurs conditions, et que pourquoi pas ils puissent bénéficier à des sparnassiens de tous âges, puisqu'on sait maintenant faire des chalets accessibles, faire en sorte qu'aujourd'hui, s'il est difficile d'y aller pour certains publics, demain on puisse y aller avec beaucoup plus de facilité et profiter du bonheur de la montagne et des loisirs de la montagne, évidemment. Pas d'autres questions ? Oui.
Donc, concernant le pôle animation, le futur pôle animation senior et résidence autonomie,
oui.
Le coût de la vente de cet ensemble immobilier de 989 mètres carrés pour 360 000 euros, ça fait 364 euros le mètre carré, me semble très élevé compte tenu de la démolition. Comme vous le savez, un terrain perd beaucoup lorsqu'il est construit et qu'il faut démolir. Deuxièmement, compte tenu du désamiantage, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de... ça coûte cher, et donc il y a pas mal à désamianter, paraît-il. Si j'ai bien compris, donc sur ce projet, deux bâtiments vont être construits, dont un sera géré par Plurial Novilia et un autre par le CCAS. Quelles seront les conditions financières de location ou d'acquisition envisagées ? La ville a eu toujours des intérêts imbriqués avec ceux du toit champenois et maintenant avec Plurial Novilia. Des relations peu claires. Parfois, la ville fait des cadeaux, mais cette fois-ci, a priori, cela ne semble-t-il pas le cas. Y aura-t-il des compensations ultérieurement ? Par ailleurs, le nombre de logements devrait être de 34 dans les deux bâtiments, ce qu'on nous a dit en commission. Y aura-t-il des places de parking en conséquence selon cette réglementation ? Et pour terminer, je déplore que le parking Galice soit amputé de plusieurs places avec ce projet.
Alors, je vous réponds très directement. C'est un projet... Bon, alors, la notion de cadeau à Plurial Novilia nous est évidemment étrangère. On a des relations. En l'occurrence, le prix était fixé par les domaines. Donc, on ne peut pas soupçonner les domaines d'être favorables ou pas favorables à un tel ou un tel. L'objectif, c'est bien de céder l'assiette foncière de ce terrain au toit champenois et ensuite, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, une VEFA, de racheter une résidence au toit champenois, sachant que l'achat de cette résidence et la construction de cette résidence sont notamment financés par des financements importants. Et Candy va vous dire un mot sur les financements que nous avons obtenus en la matière. Donc il n'y a pas de cadeau, il y a simplement... vous connaissez peut-être cet ancien bâtiment, donc le foyer Galice, qui était un bâtiment assez vétuste, occupé uniquement au rez-de-chaussée. Demain, on aura trois niveaux au-dessus de logements pour des personnes âgées. On aura des possibilités de mutualisation avec la résidence du Cèdre qui se situera en face. On aura des espaces d'accueil pour les personnes du troisième âge et tout ça dans une situation de confort et de performance thermique notamment assez remarquable. Et à côté de cela, il y aura un petit bâtiment de 11 logements qui sera indépendant, qui donnera lui sur la rue de Cézanne et qui sera géré par le toit champenois. Donc on a deux projets en un. Il est évident que nous cédons la surface foncière et nous rachetons que celui qui nous intéresse, puisque l'autre, il sera géré de manière totalement autonome par le toit champenois. Voilà. Ils sont sur le même espace, sur la même découpage foncier, la même emprise, mais il y aura bien deux projets avec une cour intérieure, enfin en tout cas un espace intérieur privatif pour que ces personnes âgées puissent se promener, pourquoi pas y trouver du stationnement, évidemment, parce qu'il y a un stationnement souterrain qui est prévu, et profiter quand il fait beau pour profiter des espaces extérieurs sans être importunés par des personnes qui ne sont pas de la résidence. Candy, pour le financement.
Oui, alors pour le financement et pour le projet en lui-même, effectivement, je vois que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, nous avions fait une commission spéciale pour ce projet et personne, aucun d'entre vous n'est venu. Alors, quand vous dites que vous n'êtes pas au courant des dossiers, je me permets de vous dire qu'il n'y avait personne, on a fait une réunion entre nous seulement. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Oui, non, si. Bon, c'est pas grave, on en fera certainement une pour que vous ayez connaissance du projet qui est très intéressant. Concernant les financements, nous avons réussi à avoir 1 million...
Nous avons vu que le projet n'était pas définitif, pas poussé à 100%. Il y a des interrogations.
Mais le projet avance très bien, puisque nous faisons assez de réunions là-dessus. Et c'est vrai que nous avons réussi à avoir des financements à peu près 1 million. Hein, je n'ai pas les chiffres exacts, les virgules. 1 million de la CARSAT en subvention. 1,8 million de la CARSAT également pour un prêt à taux zéro. 290 000 pour l'instant aussi du PAI. Voilà, donc ça avance très bien. Concernant le nombre de logements, il y en a exactement 30 logements, plus les 11 logements qui appartiendront à Plurian Novilia sur le côté, qui seront des logements sociaux. Et bien entendu, ce sera des redevances, ce sera des logements également sociaux, puisque en partie, c'est pour remplacer aussi la structure André Chenier, hein, qui n'est pas à nous. Je rappelle, nous sommes en location. Et donc, voilà.
Donc, quel sera le prix d'acquisition?
Le prix d'acquisition.
Le budget de l'opération.
Pour l'instant, on n'a pas encore. Non, on finalise.
Le prix d'acquisition des 30 logements.
Oui. Alors, pour des 30 logements.
Parce qu'en commission, j'avais compris.
4 millions d'euros hors taxes.
Oui, 4 millions d'euros hors taxes pour l'instant.
4 millions d'euros hors taxes.
Pour l'instant.
C'est le prévisionnel, puisqu'on n'a encore aucun appel d'offres et le permis de construire n'est pas encore délivré. Donc, on est en phase d'aboutissement du projet. On est entre l'APS et l'APD.
Tout à fait.
Et évidemment, les choses vont s'affiner. Mais on devrait tourner aux alentours des 4 millions d'euros taxes.
Donc, il y a bien 30 logements. Ne mettez pas que 34. 30 logements sur 3 étages.
Et évidemment, dès que le projet sera affiné, dès que le permis de construire, on le représentera en commission pour que vous ayez tous les détails sur l'organisation future de ce bâtiment, que je souhaite non seulement adapter aux besoins des personnes âgées des Pernets, celles qui sont notamment aujourd'hui à la résidence André Chénier, résidence qui ne nous appartient pas, que nous louons, et donc nous pourrons opérer un transfert de ces personnes vers cette résidence, mais qu'ensuite elles puissent disposer des services les plus modernes en termes de domotique, de sécurité à domicile, puisqu'on sait très bien qu'il existe aujourd'hui des performances très abouties en la matière et que cette résidence, elle a été aussi subventionnée pour cela, parce qu'elle offrira des conditions de vie tout à fait remarquable, intégrant un certain nombre d'éléments gérés pour assurer la sécurité des personnes âgées, leur tranquillité et leur vieillissement dans les meilleures conditions.
Donc face à cette petite polémique de convocation, vous pouvez nous envoyer un mail, savoir qui a été convoqué ou invité
et à quel
jour.
Date, mais bien sûr, on vous transmettra la date, c'était...
J'ai posé à plusieurs reprises des questions sur ce projet, savoir où il est situé. Encore récemment, j'ai demandé dans un dernier conseil municipal, initialement ça devait être rue de l'hôpital, donc j'ai posé à plusieurs reprises depuis plusieurs années les questions, et donc je suis fort intéressé par le projet.
De toute façon, on vous fera un retour effectivement quand on sera en phase. Là, pour l'instant, il y a encore...
APD et permis de construire.
Oui, voilà.
Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le projet est adopté. Nous passons au rapport 5E, Anne-Marie Legras. On l'a fait, le 5E ? Pardon. On l'a fait, il avait été englobé dans le tout.
Non, c'est à moi.
Rapport 5F, Joachim Verdier.
Mes chers collègues, je vous propose dans cette délibération de faire la suite du projet d'effacement des réseaux aériens électriques de télécommunications et d'éclairage public. Il s'agit là de se concentrer sur la zone de l'avenue du Maréchal Foch. Il s'agit de deux sections, une première de 200 mètres linéaires entre la rue Montarlot et la rue du Comte de Lamberti, ce qui correspond entre le 51 et le 71 de l'avenue Foch. Puis une deuxième section entre la rue du Comte de Lamberti et le numéro 36 de l'avenue Foch, ce qui correspond en fait aux travaux en cours, des travaux du foyer et moi, rue du Comte de Lamberti.
Merci. Pas de questions ? Oui, monsieur Urger.
Pour ma culture personnelle, les réseaux de télécommunications, ils appartiennent bien à Orange, donc c'est la négociation qui fait qu'ils... Il participe au travers du raccordement. Quoi.
Non, ce n'est pas du raccordement, là. C'est le réseau qu'on enterre.
Oui.
On est bien d'accord. On efface. Mais tout ce qui est en aérien,
le réseau,
on efface.
Le réseau, à l'origine, c'était France Télécom. C'était...
Oui.
Donc, c'est Orange qui est propriétaire.
Toujours, oui. Oui, c'est toujours Orange qui est propriétaire.
Donc, en fait, leur participation, c'est eux, c'est le raccord, le raccordement auprès des particuliers. C'est ce qui vaut leur participation dans cette affaire.
Oui. Ça reste à la charge d'Orange, pour la partie.
Oui, mais bon, l'enfouissement, ils n'y sont pas tenus.
Ils n'y sont pas tenus, l'enfouissement.
C'est aussi pour des raisons esthétiques que nous, on souhaite enfouir ces lignes.
C'est nos projets d'effacement que nous confions à la maîtrise d'ouvrage du CIEM.
Je ne vous cache pas que si on pouvait faire enfouir tous les fils aux frais des concessionnaires, on ne s'en priverait pas.
Mais ce n'est pas une obligation.
Avis contraire sur ce rapport ? Abstention, le rapport est adopté. Rapport 5G, Jonathan Rodriguez.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter cette délibération qui prévoit le prêt de la caméra thermique de la ville qui a servi cet hiver au pays d'Épernay-Tarn-de-Champagne de manière ponctuelle entre... Alors, on prend un peu d'avance, hein, c'est pas à cette période qu'ils vont faire les relevés, entre octobre 2016 et mai 2017 en fonction du réchauffement ou non climatique. On verra... comment ce sera dans ces périodes-là. Donc c'est un prêt à titre gracieux, puisqu'on l'avait déjà vu pour le parc naturel régional de la montagne de Reims. On travaille assez facilement entre nos trois structures, le parc, le pays et la ville, notamment pour ces questions de rénovation thermique et de sensibilisation à la rénovation des bâtiments.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5H. Jonathan Rodriguez.
Merci, chers collègues. Je vous propose d'adopter cette délibération qui est une des facettes de l'agenda 21, notamment l'action 19 qui prévoit, en matière de protection de l'environnement et aussi de propreté, la lutte contre les mégots et aussi liés les chewing-gums qui vont à la suite sur le domaine public et sur les trottoirs. Donc là, on propose la gratuité du domaine public pour que les commerçants, les entreprises puissent installer naturellement après autorisation d'occupation du domaine public ces cendriers. Alors je rappelle que ces cendriers seront à leur charge, hein, c'est eux qui viendra à l'achat de ces cendriers et l'entretien également de ces cendriers. Mais on propose la gratuité du domaine public puisque nous sommes censés récolter une redevance pour chaque occupation, mais vu la taille des cendriers et l'importance pour la propreté de notre ville, il est préférable de proposer aux commerçants de mettre à disposition gratuitement le domaine public pour ces cendriers. Donc ceci, c'est qu'une première action de ce qu'on veut mettre en place pour sensibiliser les fumeurs à la propreté urbaine. Il y a une chargée de mission, une jeune fille qui est en service civique au service développement durable, qui a travaillé dessus, et je vous proposerai à la commission cadre de vie développement durable, qu'on puisse échanger sur les moyens d'action, les idées à ajouter éventuellement, ou à regarder comment on peut faire pour éviter les mégots sur le domaine public.
Qu'en est-il notamment aux abords des lycées ?
Mais ça fait partie des cibles privilégiées, les lycées, les cafés, restaurants, c'est les cibles qu'on a plutôt repérées.
Je ne parle pas forcément des cendriers parce qu'ils existent déjà, mais je parle plus des actions de sensibilisation pour accompagner ces cendriers.
Ben, ça fait partie du panel d'actions qu'on peut proposer, en termes de santé, mais protection de l'environnement aussi. Après, c'est vrai que les lycées, il y a des initiatives qui sont faites au niveau national parce que, dans le cadre du plan Vigipirate, mais pas que, en termes de sécurité, puisque quand on a 400-500 gamins qui sont sur un trottoir de 2 mètres de large, ça pose, bon, là en période de Vigipirate, mais ça pose des soucis de sécurité, en termes de sécurité routière, naturellement. Donc l'idée, c'est de rapatrier ces jeunes dans les lycées, mais la loi EVA interdit de fumer dans les lycées. Donc certains chefs d'établissement prennent l'initiative de les rapatrier à l'intérieur de l'établissement ou dans la cour, naturellement, un espace dédié, mais ces chefs d'établissement sont hors la loi. Donc il y a les syndicats d'enseignants ou de chefs d'établissement se sont retournés vers le ministère en demandant quelle position le ministère entend laisser faire
au... circulaire récemment du ministère.
Voilà, j'ai pas vu où j'en étais.
Je sais qu'il y a...
C'est jour dernier.
Dans un espace défini.
Défini. Mais est-ce que c'est momentané ou est-ce que ce sera après le plan Vigipirate également?
Je pense que c'est surtout lié au plan Vigipirate. Si demain on sortait du plan Vigipirate, probablement qu'on reviendrait à la loi antérieure. Mais pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste donc le rapport numéro 6. Avez-vous des explications demandées sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé? Monsieur Angers.
Oui, sur les décisions 17 et 19, parce qu'il n'y a pas de 18. Donc là, les dossiers ont été déposés auprès du préfet, j'imagine. Donc on est dans les éligibles pour les deux décisions. Les réponses sont attendues pour quand?
Oui, vas-y.
Alors, les réponses, elles sont imminentes, toujours, mais je crois que l'État, parce que ça doit passer aussi par la direction régionale, la région Grand Est, et les critères ne sont pas encore définis, encore précisément, sur les modalités de subvention. Est-ce que c'est 10%, 15%, 50%? Ça, on n'a pas encore le taux de subvention, le taux d'aide pour ces dossiers. En revanche, on répond aux critères. Après, il y a la disponibilité de l'enveloppe. Est-ce qu'il y aura des critères additionnels de part des circulaires ministériels, puisque souvent, les préfets de région obéissent plus parfois aux circulaires qu'aux décrets, etc. Donc c'est encore à préciser, mais nos dossiers ont été vaillamment défendus par les services auprès de la sous-préfecture d'Épernay, et ça a été remonté. Donc voilà, on aura une réponse, j'espère, quand même d'ici le mois de juin, quand même, puisque les travaux de mémoire doivent être faits cette année. Hein, c'est des travaux qui doivent être faits en 2016.
Je rappelle que c'est une enveloppe qui est ouverte pour 2016.
Voilà. Je rappelle que cette dotation est une réponse de l'État à la protestation des élus locaux qui ont perdu avec les baisses de dotation l'équivalent de 4,6 milliards et que, très généreusement, l'État a accordé aux collectivités une enveloppe d'un milliard. Donc on est un peu perdant. Pour autant, si on peut obtenir le maximum de cette enveloppe de façon à cofinancer
les déficits publics ont été réduits, je crois, de plus de 4 milliards. Hein.
Oui, mais enfin bon, sur le dos des collectivités qui n'étaient elles-mêmes pas responsables du déficit en question. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que.
Il y a un moment, il faut
effectivement,
quand même bien
l'État est conscient que pour soutenir l'investissement qui a baissé de 10% dans la seule année 2015, il fallait réinjecter une partie des fonds récupérés. Il le fait sous la forme d'un fonds d'aide à l'investissement. Évidemment, on va solliciter de toutes les manières possibles ces fonds pour pouvoir retrouver une partie de capacité d'investissement plus importante. Monsieur Angers. Monsieur Lefebvre.
Oui, dernièrement, les sénateurs sont venus à Épernay. Donc le sénateur de Traigne a bien reconnu que c'était une nécessité de l'État de diminuer les dotations. Et ça, on reconnaît son objectivité. Bon, concernant ces décisions... Oui. Concernant ces décisions, la 20 et la 26, ce sont les prêts de salle pour des conférences de la CSEPC. C'est quel thème exactement?
20 et 26.
C'est pour les
ils vont à Axelaire, ils vont à.
C'est distribution de sacs de tri.
À Chaudruel.
Ah, c'est pour les distributions. C'est pour les distributions de sacs poubelles.
Ah bon,
oui, c'est courant, ça c'est.
Ah oui, c'est des interventions. Oui, je croyais que c'était une.
Ce qui évite aux gens d'aller à la communauté de communes, donc on apporte les sacs poubelles. C'est... Pas d'autres questions? Je vous propose donc de passer aux questions orales. Il y a deux questions orales qu'a posées Marc Lefebvre. La première concerne le rallye Épernay-Vannes-Champagne. On va peut-être aller assez vite dessus parce qu'on a déjà pas mal répondu. Et la deuxième, la location du palais des fêtes.
On a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps. Pas trop en retard.
Monsieur Lefebvre, je vous écoute.
Association sportive, vous évaluez le coût d'utilisation des installations et vous le budgétez dans les subventions. Il devrait donc en être de même pour l'Automobile Club de Champagne. Je désirerais connaître l'investissement en heures des différents services, communication, technique et autres, pour la préparation et l'organisation de ce rallye, ainsi que le coût total en euros, subventions comprises. Je ne remets pas en cause cette épreuve, quoiqu'elle ne fasse pas l'unanimité, ni du point de vue écologique, notamment pour l'épreuve intramuros, ni au niveau des commerçants qui se plaignent de ne pas faire leurs affaires ce jour-là.
Alors, on vous a déjà répondu sur le budget de l'opération, hein, 180...
Non, pas pour la ville.
Oui, non, mais le coût de la ville, oui. Au niveau de la subvention, c'est 9 000 euros. Oui, on l'a voté tout à l'heure.
Oui, 100,
on comptabilisera, on vous indiquera, parce que votre question est arrivée relativement récemment, on n'a pas eu le temps de comptabiliser les nombres d'heures, mais on pourra vous l'indiquer sans difficulté.
Dans les termes légaux, quand même.
Comment ?
Elle est arrivée dans les termes
oui,
légaux.
Oui, non, mais je ne conteste pas, mais effectivement, oui. Il fallait qu'on récupère les éléments, et comme en plus on avait le pont, c'était pas évident. Cette année, c'était un peu particulier parce qu'effectivement, pour les 20 ans du rallye, nous avions souhaité illustrer ce 20e anniversaire d'une manière un peu originale et la spéciale en centre-ville a recueilli un gros succès. Et on ne sait pas encore si ce genre de spéciale se poursuivra à l'avenir. Les autres années, je rappelle que nous avions une spéciale sur les hauteurs des côtes ouest qui démarrait rue de la Ruche de mémoire. Et qui permettait ensuite d'aller rejoindre Mardeuil par les...
Là, je pense que c'est en milliers d'heures qu'il faut calculer les préparations, l'organisation.
Non, parce qu'en fait, il y a un travail sur plan au départ, et il a fallu effectivement récupérer les ballots de paille, mais tout ça s'est fait à grande vitesse le samedi après-midi, puisque la spéciale commençait à 19h, et le samedi midi, on circulait encore, donc ça s'est passé dans le courant de l'après-midi, avec les engins, et je pense pas qu'il y ait eu énormément d'heures d'installation et de désinstallation, puisque tout était désinstallé dans la nuit. Donc sûrement pas des milliers d'heures. Comment ? Non. La communication est assumée pleinement par la manifestation elle-même, à l'exception de ce qu'on va surveiller sur le site internet de la ville. Mais ça, c'est le travail habituel du service. Bien. Deuxième question.
L'allocation du palais des fêtes aux associations caritatives. Je pensais que les associations caritatives, comme les partis politiques, pouvaient disposer gratuitement du palais des fêtes une ou deux fois par an. Or, avec l'application des tarifs actuels, vous découragez les bénévoles. Par leurs actions, ces associations ont un rôle primordial dans notre ville. Elles créent du lien social, aident les plus défavorisés et suppléent donc l'action sociale du CCAS et de la municipalité. Voir une association caritative organiser un événement afin de collecter des fonds pour aider les Esparnassiens en difficulté, dont la commune voisine devrait vous interpeller. Je vous propose donc soit de voter des tarifs préférentiels pour les associations caritatives qui s'investissent exclusivement dans le social, soit de leur accorder gratuitement le palais des fêtes une ou deux fois par an.
Alors, bon, c'est un sujet dont on a entendu parler ces derniers temps. Plusieurs associations se sont étonnées du prix qui avait été appliqué. Or, comme vous avez pu le constater lors du vote des tarifs, ces tarifs n'ont pas évolué sensiblement. Ils ont juste été ajustés de l'inflation au Conseil du mois de décembre dernier. Donc en fait, c'est ce sont des modifications qui sont intervenues sur le mode de financement, à savoir que autrefois, par location, il était entendu un tarif unique, intégrant un certain nombre de prestations qui sont désormais séparées, d'où la tarification qui peut parfois être... c'est plutôt l'inverse, oui. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait deux tarifications séparées, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'espace d'un côté, de l'autre côté, l'installation des tables, des chaises, etc., qui est fait par nos services. Aujourd'hui, tout a été globalisé. Première évolution importante. Deuxième évolution importante... certaines associations n'étaient pas jusqu'ici tarifées au bon niveau, à savoir qu'une manifestation à caractère payant n'est pas tarifée de la même manière qu'une manifestation d'accès gratuit, de même que dans les manifestations à caractère payant, il y a des manifestations à caractère payant à des fins caritatives et des manifestations à caractère payant à d'autres fins que des fins caritatives. Donc il faut qu'on fasse un peu la lumière dans tout ça, il faut qu'on donne plus de clarté pour les associations elles-mêmes. Donc je propose qu'une réflexion soit engagée sur le sujet de façon à ce qu'on recale bien les choses. En réalité, les tarifs n'ont pas évolué tant que ça. Simplement, c'est la lecture qui en était faite avant et la lecture qui en est faite aujourd'hui qui peuvent surprendre. Mais j'allais dire, quand on constate les règles de tarifs votées par le conseil municipal avant et après, elles n'ont pour ainsi dire pas évolué. Donc je pense qu'il y a un problème de compréhension de ces règles qui ne sont pas évidentes de prime abord, d'où la nécessité, je réponds à votre question, de revoir ce financement, sachant qu'évidemment, on fera toujours une distinction entre les associations sparnassiennes et les associations non sparnassiennes, d'une part. On fera toujours une différence entre les associations dont le produit de la manifestation a des fins caritatives, c'est-à-dire a vocation à être redistribué, et celles qui ont simplement pour vocation d'emmagasiner, j'allais dire, un peu d'argent, ne serait-ce qu'à des fins associatives, mais qui n'ont pas la finalité de donner lieu au versement d'un chèque à une fondation ou simplement d'actions de type caritatif, de type solidarité sociale ou autre. Donc il faut peut-être qu'on redéfinisse un peu les critères, qu'on sache bien qui on met dans chaque catégorie, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les finalités de la ville en la matière.
Vous dites un problème de lecture des tarifs. Une association qui louait la salle des fêtes, au palais des fêtes, il y a 2 ans, on lui demandait tant d'euros. Là, c'est pas l'association, c'est les tarifs qu'on lui donne, qu'on lui demande. C'est pas une question de lecture. C'est peut-être une question d'interprétation.
Non, mais y compris par nos services.
Oui,
par
vos services.
Je ne mets pas.
Est-ce que vous êtes pour cette association listée de mettre une fois par an la gratuité?
Non, enfin, on verra, ça peut être une des pistes, mais il faut déterminer les choses avec un minimum de précaution. Quand je parlais d'interprétation tout à l'heure, c'était y compris par nos propres services. Et on s'est rendu compte que certaines manifestations en 2015 n'ont pas été tarifées conformément au vote du Conseil. En réalité, elles auraient dû être payées plus cher qu'elles ne l'ont été. Et si nos propres services ont pu se tromper, c'est que les choses n'étaient pas claires pour les associations elles-mêmes. Donc je pense qu'il faut qu'on définisse un mode d'emploi des salles associatives de façon beaucoup plus claire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Une association qui réserve une salle doit savoir à l'avance à quel niveau elle paiera cette salle. Alors si elle a choisi du mobilier ou pas de mobilier, si c'est elle qui installe le mobilier ou c'est les services de la ville qui l'installent, il est normal qu'il y ait des différences. Mais ça doit apparaître plus clair qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le sentiment qui domine chez certaines associations, mais je précise tout de suite qu'on n'a pas vu le nombre de réservations de salles baisser, bien au contraire, c'est apporter plus de clarté pour que chacun comprenne les enjeux des tarifs et que chacun puisse choisir ou d'équiper sa salle soi-même, c'est-à-dire avec les bras des bénévoles d'installer les tables ou alors de demander aux services municipaux de le faire. Mais il est normal que si les services municipaux le fassent, que ces services soient rémunérés.
La question commerciale, il n'y a pas de problème.
Aucun. C'est pas là que se pose le problème.
Je pense qu'en langage populaire, on a un petit peu la honte de voir.
Non, du tout.
Le Secours populaire aller à Haï.
Ça leur fait du bien d'aller
collecter des fonds
de temps
pour
en temps.
Les Sparnassiens en dehors de notre territoire.
Ça leur fait du bien de tourner sur le bassin. Il y a des associations qui ont, pendant des années, utilisé les mêmes salles. Un jour, elle a été prise. Ils sont allés dans d'autres communes. Et je rappelle qu'il y a quand même des salles polyvalentes à Haï ou ailleurs qui sont très bien, qui ont vocation aussi à faire vivre le territoire. On a à Chouilly, on a Mareuil-sur-Aï, Mareuil, on a des salles qui aussi doivent accueillir de temps à autre des événements. Imaginez que tout se concentre sur Épernay, ce n'est pas non plus une vision du territoire. Pardon ? Ça leur fait du bien. Parce qu'ils ont aussi Attendez, ces associations, je précise. Oui, mais quand je dis que ça leur fait du bien, c'est que les gens qui viennent aux manifestations et qui d'habitude font la route d'Haï pour venir à Épernay sont aussi contents que de temps en temps on organise à Haï et que ce soit les Sparnassiens qui fassent le voyage. Mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Oui. Bien. On a fini les questions. Je vous remercie de votre participation. Prochaine séance, mardi 28 juin.